Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Bonjour, bonsoir mes amis, mes tout petits chevaux, cheveux au vent. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de mon podcast, Les mecs que je veux ken. Avec mon père, j'ai invité mon père pour essayer de résoudre l'énigme de mon rapport aux hommes. Pourquoi n'ai-je pas encore rencontré le bon ? Où est-il ? Celui avec qui faire des bébés ? Au moins rester quelques années ensemble ? Pourquoi est-ce que je tombe si follement amoureuse, si vite ? Et pourquoi cela devient vite aussi conflictuel, fusionnel, passionnel, impossible ? Pourquoi je souffre autant ? Je pense que, comme vous certainement, c'est très dur, en amour comme en amitié, de trouver des personnes avec qui on s'entend vraiment. Alors quand ça arrive, enfin, on ne veut pas les laisser partir, on ne comprend pas tout de suite sur le moment les différences insurmontables. C'est tellement rare, pour moi, d'être attiré ne serait-ce que physiquement par quelqu'un. Alors boum, quand l'alchimie opère, bah oui, très vite, une caresse veut dire beaucoup plus qu'une caresse. Et mon Dieu, après le confinement, vous imaginez dans quel état on va être, nous, les célibataires, oi, oi, oi. Enfin, je sais pas, parce que oui, il y a le sexe d'un côté et l'affection, surtout, de l'autre. J'ai tellement envie de prendre mes parents dans mes bras. Je les adore. Parfois, je les déteste, mais là, avec l'éloignement, j'aime tellement mon papa. Vous verrez, c'est un sacré personnage. Je suis heureuse et fière de vous le présenter. Bonne écoute. Et il y a des gens que vous connaissez qui sont aussi à l'île aux moines là en ce moment. Vous avez des amis, mais vous ne pouvez pas les voir. Vous êtes que confinés tous les deux.
Absolument.
Et tu lis quoi ?
Le Monde. Libération.
Tu lis que... Mais tu lis que les journaux, tu lis pas un roman ?
Le Monde, Libération, le New York Times,
okay.
Le Parisien,
mm-hmm.
Et le Fig.
Mm-hmm.
Voilà, et à part ça, je suis en train de finir le roman de Serge Toubiana sur Ellen Scott.
Ok, Papounet. Donc, je t'ai écrit un petit poème.
Mm-hmm.
Je te le lis. Et après, si tu veux, tu peux réagir. Pour la première partie de mon poème, j'emprunte à Gérard Lozier le titre de son film. Mon père, ce héros. J'ai de l'admiration pour mon père, fils d'immigrés juifs polonais ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale grâce à la résistance. Je suis fière de mon père, adolescent rebelle, ascolaire, prêt à se faire renvoyer d'un collège pour avoir cogné une prof raciste, puis d'un autre établissement pour avoir cassé l'arcade sourcilière d'un collégien antisémite. Je comprends que mon père se soit enthousiasmé à 14 ans pour mai 68, qu'il ait pris un plaisir fou à envoyer des pavés au CRS. Je le vois passer son bac, faire des études d'histoire et s'engager comme militant professionnel à lutte ouvrière pendant 10 ans. Je suis émue que mon père ait sincèrement cru à la Révolution. J'imagine mon père réalisant ses premiers films institutionnels à LO. C'est comme si j'avais ressassé ces images pour en faire un film. Toi, papa, marchant avec ton père aux Tuileries. Un peu comme tu te balades aujourd'hui au Luxembourg avec nous, tes filles. Je peux sentir l'odeur des sandwichs au foie gras que te faisait ta nounou, ainsi que l'odeur des livres de Karl Marx empilés dans les recoins de ta chambre de bonne, rue des Pyramides, au-dessus de l'appartement de tes parents. Je souris de toi, enfant qui joue avec des allumettes et met deux fois le feu à votre appart, la punition de ton père, après, la ceinture. Je pressens la dureté de mon grand-père, Léon, son intelligence et la force de ma grand-mère, Rivka, mêlée à son amour des gens. Je vois mes grands-parents, heureux, à la bar mitzvah de mon père. Et je te vois, papa, collectant tes cadeaux, coupant ta pièce montée, te régalant des choux. J'arrive dans ta vie quand tu as 34 ou 35 ans. Je suis le fruit de ta rencontre avec maman, belle journaliste, féministe, pleine de vie et voulant fonder une famille. Tu es devenu producteur de cinéma et tu produis surtout des films d'auteurs étrangers. Le Chêne, Le Cri de la Soie, Le Cercle Parfait, Une Jeunesse Chinoise et tant d'autres. Ça y est, je suis ado et je t'accompagne au Festival de Cannes et on monte les marches ensemble et je me souviens de ta fébrilité, de ton stress quand tu avais un film en compétition. Je me souviens de l'appartement rue du Sentier où nous vivions tous les quatre. Et quand tu avais faim en rentrant le soir, il fallait vite manger et maman préparait les pâtes et toi, boulimique, énervé, passionné, tu les avalais, tu attendais une réponse du CNC et tu dépensais à l'avance de l'argent qui n'était pas encore là. Et nos vacances. Deuxième partie, mon père se rivale. Nos bagarres de coq en Égypte, quand tu voulais corriger la guide, et moi, 12 ans, qui voulais montrer que je connaissais mieux que toi le nom des divinités. Et vous demandant à maman et toi de m'acheter du papyrus, des timbres, des carnets et des cartes postales. Moi qui lis, qui collectionne et qui parle à table en italien avec maman, et ça t'énerve, parce que tu comprends pas. Mes premières félicitations au collège, et toi qui n'exprimes pas ta fierté, qui n'y arrive pas, tu me demandes les notes des trois élèves supérieurs à moi. Je te donne leur moyenne, et en faisant ça, j'accepte une position de « tout ce que je fais n'est jamais assez bien pour papa », qui me poursuit encore aujourd'hui. Ta maladresse quand tu me demandes « c'était complet samedi au théâtre ? Ah bon, c'était complet, mais complet d'inconnus ou des gens que tu connaissais ? Ah bon, c'était des inconnus, mais ils ont payé leur place ou c'était des invitations ? Ah bon, ils ont payé, mais ils ont payé le tarif complet ou le tarif réduit ? Mais ah bon, mais alors t'as gagné combien ?» Mon impuissance à t'envoyer paître sur le moment, mais l'amour qui nous lie. Quand tu as mis ton beau costume pour l'avant-première de mon court-métrage au Forum des Images, quand tu viens voir mon spectacle de stand-up au Festival d'Avignon et que tu me vois suer et tracter et coller des affiches. Ta tristesse quand tu me sens seule. Toi qui me protégeais, ta Jewish princess, quand des profs voulaient me saquer au collège. Parce que j'étais bonne élève mais insolente, parce que je me construisais en imitant mes parents, en volant ta violence, ta pureté et les mots de maman, le langage, l'humour. Je t'aime, papa, et te remercie de venir échanger quelques mots dans mon podcast pour le dernier épisode de la saison 1 des Mecs que je veux ken. Je sais que tu es très pudique, je le sais, c'est pas un exercice auquel tu es habitué du tout, mais sache que les Américains font beaucoup ça dans leur podcast, que Julie Delpy a filmé son père dans son propre rôle et qu'après tout aussi, tu dis ce que tu veux.
Écoute, à 4, je suis touché parce que, par ton poème. Touché, c'est très beau. Je suis à 98% d'accord avec ce que tu racontes.
D'accord, c'est quoi les 2% sur lesquels tu veux revenir ?
Non, mais il n'y a pas... Je veux rien revenir, Toronto. C'est ton portrait à toi de ton père. Il n'y a pas à revenir. Je trouve ça des petites imprécisions, mais qui ne sont pas graves.
Tu veux dire sur ton enfance ?
Oui. C'est dans le même lycée qu'on m'a traité de sale étranger, qui était le lycée Charlemagne, et qu'après, on m'a viré parce que... C'est pas que j'ai fait plusieurs lycées, c'est que il y avait des gens d'Occident qui manifestaient que j'avais lâché un extincteur sur eux. Et je suis passé en conseil d'administration et on m'a dit mais vous auriez pu les tuer. Et j'ai dit ça n'aurait pas été grave.
Ça, t'étais au collège ou au lycée à Charlemagne à ce moment-là ?
J'étais au lycée quand on a fait ça. Et c'est au collège qu'on m'avait traité de sale étranger.
C'était une prof, c'est ça ?
C'était une prof, oui.
Elle t'avait traité, toi et d'autres élèves de ta classe, de sales étrangers ?
Moi et un Turc, nous avait traité tous les deux de sales étrangers. Et je me souviens très bien que c'était horrible. On avait été voir le proviseur l'avait mis, parce que tu comprends, elle était en fin de carrière. Donc on l'avait mis en disponibilité, on ne l'avait pas viré. On était en 60, on était à peine 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale.
Bon. Et donc, ça, il y a eu cet épisode de cette prof. Et ensuite, il y avait eu aussi l'élève à qui tu avais cassé l'arcade sourcilière.
Ah oui, mais ça, c'était au petit lycée. Il y a un gars qui m'avait traité de sale juif. Je lui avais cassé l'arcade sourcilière. Ils m'ont viré une journée. Mais ça, c'était pas grave.
Quand même, tu avais un goût pour la bagarre.
Ben, tu sais, tous les gamins ont un goût pour la bagarre. C'est assez courant chez les petits mecs de se bagarrer. Et c'était une insulte assez grave, quand même. À l'époque, l'extermination, la Shoah était quelque chose d'un petit peu pas connu, mais en tout cas dans ma famille, c'était connu. Et j'étais un enfant de résistant communiste. J'acceptais pas qu'on me traite ainsi.
Cette violence que tu avais, comment dire, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais? Tu veux dire, est-ce que tu penses que c'est le milieu dans lequel tu as grandi? C'est les immigrés polonais, c'était un milieu assez...
D'abord, d'une façon générale, on était une période où les gens étaient plus violents. Ou du moins, c'est pas qu'ils étaient plus violents, c'est que la violence était plus acceptée. D'une certaine manière, dans la société, c'était pas mon cas, mais souvent, les parents battaient leurs enfants. La violence était intrinsèque. On était juste après 68. Les flics s'étaient pas gênés en 68 pour nous taper dessus. Quand on se faisait arrêter, on se reprenait rapidement un coup de matraque dans la tête. Les gens d'Occident arrivaient au bas des lycées avec des battes de baseball pour aller casser du gaucho, comme ils disaient. Je veux dire, on était dans une période violente. Et en plus de ça, mes parents étaient des immigrés polonais, donc ils venaient d'un pays où il y avait de la violence. Ils étaient nés dans un pays antisémite, où ils avaient subi de la violence comme immigrés, ils avaient subi de la violence comme immigrés pauvres en France. Et puis la guerre, c'est une période très violente, très dure. C'était pas... aujourd'hui, on a peur de la violence, mais la violence, elle est dans les rapports sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, on dit que se séparer à 2 mètres, c'est de la distanciation sociale. Comme si la distanciation sociale n'était pas le quotidien de tout un chacun en fonction d'où tu te places.
Mais est-ce que, justement, le fait d'avoir des filles, 2 filles, ça a apporté de la douceur dans ta vie?
Alors, d'abord, j'ai des filles qui sont extrêmement douces, mais qui sont aussi assez violentes. je ne sais pas si c'est parce que c'est des filles ou si c'était des gars. Je ne sais pas ce que c'est l'expérience de gars, mais en tout cas, c'était un bonheur d'avoir 2 filles. Je réponds à côté parce que je ne connais pas la réponse si ça avait été des gars, mais je sais que mes filles ne sont pas tendres. Quand elles sont énervées, elles sont énervées. Et elles peuvent être violentes. Alors que moi, je suis doux.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de générationnel? Est-ce que tu te souviens de tes parents qui t'ont fait des compliments?
Tu sais, on faisait des compliments, oui, mais pas. Pas exactement des compliments. Ils avaient confiance, mais des compliments pas tellement. On complimentait pas. Le problème, c'est qu'il fallait réussir. Il fallait réussir, fallait être bon. On avait la chance d'avoir survécu. Ils avaient la chance d'avoir survécu à la guerre. Ils croquaient la vie comme ils pouvaient au maximum, c'était pas bravo, 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 non, pas du tout, c'était, il faut que tu fasses bien. C'était une injonction, mais par contre, ils avaient confiance. c'était plutôt de la confiance, comme moi j'ai eu toujours confiance dans mes filles. Plutôt que d'approuver à chaque fois de béatitude, à bravo mon chéri, à l'américaine, ah c'est très très bien, ah tu peux faire mieux, mais t'es gentil, t'es de la guimauve, ah non t'es du sucre, ah non t'es du chocolat, c'est pas ma culture et puis c'est pas quelque chose auquel je suis très fan. Par contre, je suis fan absolument de faire confiance et j'ai toujours fait confiance à mes filles extrêmement parce que je les sens responsables et capables.
Ouais. Mais t'as pas, tu dis tes filles au pluriel, mais entre ma sœur et moi, t'as pas eu le même rapport.
Ben non, il y avait l'aînée et la cadette.
Voilà. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens du moment où tu me demandais les notes d'Anne-Claire Gorenstein, d'Alban Krout et d'Anne Dupré? Pourquoi ça t'intéressait autant?
Ça m'intéressait autant pas. Parce que je voulais savoir, parce que tu sais, les notes en soi, ça veut rien dire. Et j'étais intéressé de savoir si, par exemple, tu m'aurais dit, voilà, je veux dire, c'est comme si t'es première dans, c'était pour savoir un petit peu les autres où ils en étaient et l'ensemble de la classe. C'était une question de me faire une opinion. C'était pas pour que tu fasses mieux. C'était pour me faire une opinion à moi du niveau. De la même manière que si tu fais un devoir à la fac, on va te donner 11 et il va être très très bien. Et si tu fais un devoir en primaire, tu vas avoir 20 et on va te dire « Ah, c'est extraordinaire, félicitations !» Ce qui fait que, par exemple, beaucoup de gens passent du lycée à la fac et tombent des nues parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont eu 12 alors qu'avant, ils avaient 20. 20 parce que c'est tellement plus facile de donner des 20.
Mais c'est sûr que donc toi tu penses que c'est bien une certaine éducation un peu à la dure quoi.
Non, pas à la dure. C'est pas une éducation à la dure. Non, je suis contre les éducations à la dure. Je suis pour faire confiance aux enfants. Je suis pour leur laisser leur liberté. Je trouve que le fait de complimenter à bout de bras, c'est pas ma tradition, c'est pas ma culture. Mais par contre, quand mes filles m'étonnent et quand tu m'étonnes, tu m'as étonné à Avignon, tu m'as étonné quand tu as écrit un poème sur la plage en 2 minutes. Là, je te dis, mais tu m'étonnes, c'est génial.
Comment tu as réussi dans la vie à régler la question de la confiance en soi, qui est, une question toute la vie, pratiquement, parce que...
Je crois que la confiance en soi, c'est beaucoup la confiance que te donnent tes parents. Tu sais, je crois que... Je ne sais pas si j'avais confiance en moi ou pas, mais il fallait y aller. C'est comme si, d'où je partais, il n'y avait pas d'obstacle pour aller sur la Lune, quoi. Il fallait y aller. Il n'y avait pas de problème. Et j'ai eu la chance... d'avoir de l'amour, beaucoup d'amour de mes parents. Donc moi, j'ai fait pareil vis-à-vis de mes filles et vis-à-vis de toi, de leur donner de l'amour et de la confiance.
Mais est-ce que l'amour venant de ta mère était plus simple, plus clair et peut-être plus joyeux? Et est-ce que l'amour venant de ton père était plus compliqué et peut-être moins encourageant, moins...
Non, franchement, tous les deux, ils avaient, c'était pas compliqué. Ni mon père ni ma mère, c'était pas compliqué. Ma mère était plus simple, c'était plus direct, mais mon père nous aimait profondément. Il y avait, lui était plus compliqué. Par contre, par rapport à l'amour, et mon père m'a transmis quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la tolérance. C'est quelqu'un, la tolérance, c'est-à-dire ne pas avoir de jugement sur les autres. Qu'il soit rond, qu'il soit grand, qu'il soit moche, qu'il soit beau, qu'il soit... Quel qu'il soit, ne pas juger les gens. Ne pas faire du gossip. Faire de l'anti-Facebook.
Oui, tu dis ça, mais parfois, tu as quand même ce comportement un peu typique des fils d'immigrés, qui est que tu as une admiration un peu élitiste vers les professeurs de médecine, vers les grands reporters, vers les... T'es quand même attiré par la réussite des autres et...
Je suis attiré par tout ce qui est une réussite qui est liée à la curiosité. Mm. C'est-à-dire tout ce qui est la science, le spectacle, l'art, tout ce que tous les gens qui sont curieux, ils m'attirent. S'ils sont journalistes, pourquoi pas. Peu importe le métier, c'est la curiosité qui m'attire. C'est la rapidité, c'est le regard. Et c'est vrai, c'est pas une question d'émigrer, c'est une question de... C'est pas parce qu'ils sont fils d'émigrés ou quoi que ce soit, c'est que... Et c'est vrai que quand je vois des grands savants, je me dis, mais comment ils sont devenus grands savants? Oui, ça m'intéresse. Quand je vois des cinéastes, des très bons cinéastes, je me dis, mais comment ils sont devenus grands cinéastes? Oui, ça c'est une curiosité que j'ai.
Et comment tu définirais l'intelligence?
Par la curiosité. Mm. C'est-à-dire quelque chose... Toujours essayer de savoir pourquoi, comment. Pourquoi, comment. Ne jamais avoir d'idées préconçues, ou essayer d'en avoir le moins possible, plutôt, parce qu'on en a toujours. Mais d'essayer toujours de regarder, d'essayer de définir, comment on arrive? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique? Ah tiens, ça, je ne sais pas comment ça marche. Mmh. Comprendre. Pour moi, c'est ça, l'intelligence. Mmh. Et c'est aussi la compréhension des autres. Peut-être d'abord et avant tout. Et ça, c'est quelque chose que tu as moins quand tu es jeune, parce que quand tu es jeune, tu as des idées préconçues souvent. Mais même en politique, tu vois, se dire, mais pourquoi lui, il est là
Est-ce que tu considères quand même que devenir père, ça t'a appris plein de choses? Qu'est-ce qui a changé en toi, en tant qu'homme, en devenant père?
Oui, ça apprend. C'est extraordinaire de devenir père. Moi, j'ai toujours aimé transmettre. Alors, j'avais enfin pendant quelques années, deux personnes à qui je pouvais transmettre comment on a battu les pyramides, comment on a fait les châteaux, faire un musée, on n'a pas fait qu'un musée, on fait un deuxième musée, expliquer, transmettre.
Mmh, être un peu dictatorial peut-être à certains moments.
C'est comme ça que tu l'as vécu parce que tu avais envie de jouer plutôt qu'aller au musée, mais c'est autre chose.
Est-ce que tu te souviens que c'est quand même moi qui t'ai ouvert un peu sur le métier d'acteur et sur le théâtre?
Mais bien sûr, parce que quand tu vois de l'intérieur quelqu'un, ça t'ouvre un petit, ça te fait un regard qui n'est pas obligatoirement le tien. Tu peux avoir un regard extérieur, et là, comme c'était ma fille, j'avais un regard intérieur.
J'aimerais qu'on discute aussi de nos ressemblances et nos différences, par exemple, en matière de culture, de livres, de séries, de films. J'ai l'impression que les bouquins, on ne lit jamais les mêmes, pratiquement. Mais par contre, j'ai un souvenir très fort avec toi. C'est quand on est ensemble allé voir La La Land au Max Linder. Et tu t'en souviens?
Non, mais je me souviens qu'on était voir ensemble. Non, mais je ne m'en souviens pas bien de souvenirs en commun. Vas-y.
On était allés à l'avance. On avait un peu bousculé les gens pour prendre les meilleures places au premier étage et avoir de l'espace pour nos jambes. Et puis, il y a eu la première scène sur le grand écran du Max Linder où ils dansent sur leur voiture et on s'est regardés. Et on était tous les deux... On partageait, c'était un moment de plaisir de cinéma qu'on partageait tous les deux. Mmh. Et puis ensuite, on a regardé le film. Et puis, à la toute fin, il y a la chanson d'Emma Stone qui chante et qui pleure en racontant sa tante qui s'est suicidée. Puis on pleurait tous les deux ensemble. Et ensuite, le film s'est terminé. Et on s'est dit qu'on avait été heureux de partager ça. Et c'est vrai que tu m'as transmis l'amour du cinéma. Ça, c'est toi qui... Parfois, il y a des films qu'on aime en commun, comme la série de Tchernobyl, on a adoré tous les deux.
Oui, mais ça, c'est facile d'aimer tous les deux parce que c'est un très, très grand film.
Proxima, le film avec Eva Green, on a aimé tous les deux.
Absolument, c'est très bien. C'est un vrai film féministe. Féministe dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune prétention d'être un film féministe. Il n'est pas à la mode. Il est très, très vrai. Et c'est le fait qu'une femme doit choisir entre sa position de femme éducatrice avec un petit enfant, petite fille dans l'occasion, et sa passion pour sa carrière, et que le film tourne autour de ça, je trouve que c'est tellement actuel, tellement vrai, et que ça n'a pas été assez défendu comme un grand film féministe, alors qu'il y a des films féministes contre les hommes, parce que c'est plus d'actualité, qui prennent plus le dessus, alors que je trouve ça beaucoup moins fort.
Bon, après, c'est pas la peine de forcément... Il n'y a pas beaucoup de films de femmes, donc ça sert à rien de les monter les uns contre les autres pour en abattre certains.
Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, hein, chérie. En France, il y en a pas mal. En France, on doit être à 30% de films de femmes, 35%. Il y a des différences parce que les femmes n'ont pas encore accès à des budgets comme ceux des hommes, mais au nombre de films de réalisatrices, il y en a beaucoup.
En tout cas, il y en a eu peu récompensé cette année au César. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément obligé de revenir parce que...
Non, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet Polanski, le fait de récompenser. Moi, j'ai voté Proxima. Je suis très déçu que c'est par exemple... Elle ne l'ait pas eu, mais le sujet des Césars, il n'est pas là.
Comment la question du féminisme, justement, je voulais en parler, ça s'est posé dans ta vie? Est-ce que... c'est d'avoir une mère très forte, parce que j'ai l'impression que ta mère avait un caractère énorme, mais que quand même, est-ce que tu dirais quand même qu'elle était par certains aspects soumise dans le cadre du foyer à ton père, ou pas du tout?
Bon, c'était notre génération soumise, j'aurais pas employé ce mot-là, parce que ma mère était tout sauf quelqu'un de soumis. Mais effectivement, c'était une autre période, une autre génération qui était plus, qui était moins indépendante que le sont les jeunes femmes d'aujourd'hui, oui.
Mm.
Et pour moi, le féminisme est arrivé tout simplement, c'est que ma première copine était au MLAC, qu'on se battait, que jamais on n'aurait accepté une pub de soutien-gorge, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois le féminisme est partout et à la fois les pubs sont terrifiantes et nous, on n'acceptait pas les pubs, on était révoltés, on était des enfants de 68 et on était... Et moi, je militais dans un groupe qui a présenté la première femme candidate aux élections, ce qui n'était jamais vu en France, aux élections présidentielles, qui était Armand Laguille.
Mais ensuite, dans ton expérience de producteur de cinéma, j'imagine que la question du féminisme à ton époque a dû se poser un peu différemment, surtout que, est-ce que tu te souviens du choc quand tu as appris la mort de Marie Trintignant?
Ah oui, bien sûr, parce que j'aimais beaucoup Marie. Ah oui, oui, mais ça, c'était un gougnafier, ça l'est toujours. Si tu veux, ça, c'est comme la violence avec le confinement, la violence qui est faite aux femmes, c'est pas possible, c'est une horreur.
Est-ce que tu avais peur pour moi que je devienne actrice parce que tu avais pu observer aussi des comportements, avec ton expérience de producteur de cinéma, d'abus de pouvoir ou envers les comédiennes?
Un petit peu, mais ma peur, elle était autre, c'est que ma peur, c'est la difficulté d'être dans un métier où tu es toujours dans le désir, dans le regard et le désir de l'autre, qui est à son choix. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très, très dur. Qui est pas, et que dont la réussite n'est pas obligatoirement liée à ton talent, mais liée aussi au hasard, aux rencontres.
Mais est-ce que tu crois pas que le désir des autres, on y est toujours soumis? Quand tu es producteur, il t'est soumis au désir des financiers qui veulent bien...
Oui, mais beaucoup moins quand même. Beaucoup moins.
Mm.
Beaucoup moins, parce que tu n'as pas qu'un financier. C'est la différence entre le cinéma et la télévision. Un film de cinéma, tu as l'avance sur recette. Si tu n'as pas l'avance sur recette, tu peux avoir Canal+, tu peux avoir... Tu as plusieurs sources de financement. Tu as des coproductions étrangères.
Oui,
donc,
mais quand tu es écrivain, il faut être publié. Ensuite, il faut que les journalistes t'aiment. Ensuite, il faut que...
Tu as plus de choix que dans le métier de comédien, c'est ça qui me faisait peur.
Est-ce que c'était pas plutôt le fait que ce soit pas suffisamment intellectuel pour toi?
Non, peut-être. Non, c'est pas, je l'aurais jamais formulé comme ça. Non, je pensais que tu avais des capacités, et que tu as toujours, intellectuelles, qui, je te voyais exceller plutôt dans l'écriture et la réalisation que dans comédien, mais comme c'était ta passion, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt ça qu'un jugement sur est-ce que le métier de comédien est intellectuel ou pas. C'était plutôt par rapport à mon regard que j'avais sur toi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on a trouvé une bonne dynamique où je fais quelque chose quand même assez... je suis dans la comédie alors que toi, tu étais plutôt dans le drame social. Moi, je suis très dans la comédie. Mais on arrive à dialoguer, c'est-à-dire que tu vois... même tu vois mes petites vidéos et elles te font marrer. J'ai l'impression que depuis le confinement... je sais pas si c'est le fait qu'on soit loin, mais mes petites vidéos te font pas mal marrer, j'ai l'impression.
Ben parce que je trouve qu'il y en a des très très bonnes, que j'aime bien, c'est tout simplement.
Il y en a des très très bonnes. Non, tu remarques quand même que c'est toujours un peu par la négative que tu formules.
Il y en a que j'aime un peu moins, comme toujours, mais je trouve qu'il y en a vraiment où t'as des trucs vraiment très très bien, chérie, c'est pour ça. Je trouve que c'est vraiment bien. La dernière sur Thomas Mann m'a fait... J'ai trouvé ça poilant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve que tu as beaucoup d'humour. Moi, je n'ai pas énormément d'humour. Et je trouve que souvent, il y a un humour qui est l'humour de ta génération, qui est l'humour du stand-up, qui est souvent un humour sexuel ou qui est lié à la chose sexuelle. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Donc, j'aime moins ce thème-là parce que c'est un thème auquel je ne suis pas très à l'aise.
Et pourtant, quand tu es venue avec ta compagne à mon spectacle, tu as observé qu'elle se tordait, qu'elle riait beaucoup justement à ces blagues-là.
Ah bah oui, ça m'a fait très plaisir.
Tu vois pas que quand je fais des blagues sur le sexe, il y a un aspect politique derrière ?
Mais bien sûr, chérie, ne me prends pas. Il y en a certaines que j'aime beaucoup. Je te dis, j'ai une éducation très pudique, j'ai plus de mal avec ça, c'est tout. Je dis pas que j'aime pas.
C'est sûr que c'est quand je parle de sexe, c'est pour parler aussi de la question du plaisir et du plaisir féminin et que c'est pas.
Et moi, je t'ai toujours dit que j'ai essayé une chose que j'ai pas bougé, que ça me gênait pas. J'ai jamais été un père qui dit non, il faut pas qu'un mec touche ma fille.
Oui, pas du tout. C'est-à-dire que t'es pudique, mais quand même, t'as aussi produit beaucoup de films qui étaient des films assez érotiques.
Bah, bien sûr. Mais en parler, c'est pas ma culture. Ça m'empêche pas que la chose est quelque chose que je trouve passionnant.
Voilà. c'est que c'est pas un sujet que tu rejettes. Moi, je me souviens très bien quand j'étais enfant, tu m'avais dit, je sais pas si c'est vrai, mais que dans la Torah, une femme a le droit de demander le divorce si son mari ne lui procure pas d'orgasme.
C'est vrai.
Tu penses que c'est vrai ça? Qu'elle ait écrit ça dans la Torah?
C'est une des raisons du divorce, c'est que l'homme ne procure pas de plaisir à la femme. Oui, c'est vrai. Et d'abord, il y a le divorce qui est autorisé. Et puis, moi, j'ai toujours dit, faites l'amour si vous trouvez, mais faites-le avec plaisir. Et c'est toujours ce que j'ai dit à mes filles et que je pense profondément que c'est quelque chose de positif. À condition de le faire avec plaisir.
Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui, en France, aujourd'hui, d'écrire un film ou d'écrire une série qui parle des Juifs de façon non caricaturale? Est-ce que tu penses que c'est possible de faire, ou est-ce qu'il ne faut pas en parler?
Je pense que c'est possible, mais il faut l'intérêt de le faire. Pourquoi dire on n'a pas à parler des Juifs, on ne parle pas des chrétiens, on ne parle pas des musulmans. On a un sujet qui peut se retrouver dans un milieu juif spécifique, mais c'est d'abord un sujet.
Est-ce que tu considères que tu as pu un tout petit peu souffrir quand même d'antisémitisme dans ton activité de producteur de cinéma? Pas vraiment?
Je ne l'ai pas ressenti, très peu, très peu, très peu. Je ne l'ai pas ressenti, peut-être que je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas ressenti. Mais à part un film, je n'ai pas fait des trucs spécialement juifs non plus.
Ah oui, non, pas du tout. Mais non, mais il me semblait que parfois il y avait une banquière qui avait pu te dire que toi, tu n'avais pas besoin d'argent puisque tu étais juif.
Non, ce n'est pas une banquière. C'était quelqu'un qui était dans l'administration du CNC.
Ouais. Et t'as jamais senti de regard de technicien qui te voyait comme le producteur juif qui veut pas les payer à... Enfin, non, ça, t'as jamais eu senti ça?
Si, quelquefois, mais il y a toujours des cons, qu'est-ce que tu veux? Bon. Des cons, des débiles, ça existe toujours. C'est, de toute façon, l'antisémitisme, hein, c'est que... c'est quelque chose qui existe. La majorité des gens sont antisémites. Et comme disait Freud, toute la question est la question de degré.
Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis dans ta vie?
Non.
Pas beaucoup, hein?
Non. Quelques-uns, mais pas beaucoup.
Est-ce que tu te sens à l'aise dans les groupes?
Moi, je me sens très à l'aise dans les groupes. Mais c'est pas pour... Mais précise ta question, parce qu'elle est générale.
Ce que je veux savoir, c'est j'ai l'impression parfois de peut-être d'être assez... Je me demande si le fait qu'on ait eu un noyau, une famille aussi fusionnelle, a fait que j'ai pu laisser un peu, même si j'ai des amis, mais un peu en dehors... J'ai l'impression que pour toi, c'est d'abord la famille, ta compagne, tes filles, ensuite que ce soit ma mère et ensuite la compagne que tu as aujourd'hui, mais il y a peu de sorties, il y a peu de... T'es pas quelqu'un de très fêtard, qui picole, qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très sérieux en toi, quand même.
Non, c'est que ça m'emmerde. J'aime bien boire avec des copains et rigoler, mais bon, mais je trouve que c'est emmerdant à la fin, c'est un peu vain, quoi. Je peux boire un soir, ça me fait très plaisir de boire, mais d'abord je suis pas quelqu'un qui boit, alors à part quand je rencontre des amis et aller dans des bars, etc. À partir d'un moment je m'emmerde.
J'ai l'impression que ces années à Lutrouvière t'ont quand même vachement marqué.
Bien sûr,
ce côté staccanoviste, et un peu ce côté unique, il y a une lutte et puis peut-être avoir du mal à accéder à de la légèreté, ou tu vois, c'est très ce qui compte c'est le débat, c'est la discussion.
Écoute, mais... je sais pas, probablement ce que tu mets sur les années avec Lutte Ouvrière, c'est aussi d'une période d'où je viens, où tout était débat, questions, réponses, on était tous très très sérieux. On se prenait tous trop au sérieux.
Ouais, c'est ça que je veux dire.
On se prenait trop au sérieux. On se prenait détendeur d'une vérité. Et c'était pas uniquement Hello, c'était l'ensemble. On était une génération qui se prenait trop au sérieux, qui avait pas assez de légèreté, bien sûr.
Bah oui, parce que. Enfin, c'était toi particulièrement, parce que dans cette même génération, t'avais aussi Coluche, t'avais des proches, t'avais Woodstock, T'avais des gens qui étaient hippies, mais toi, c'était pas ta formation, quoi.
C'était pas ma formation, et on était beaucoup comme moi, et n'oublie pas, quand même, avec une histoire spécifique, quand même, derrière, un peu lourde. Quand même, quand j'étais petit, sur la plage de Cannes, je me souviens, avec un copain, on comptait ceux qui étaient immatriculés, qui avaient les numéros des camps de concentration, et ceux qui n'avaient pas, comme jeu. C'est pas très...
Oui, c'est sûr que c'est pas très léger. C'est pas le jeu sur la plage, c'est pas les châteaux de sable.
Mais j'ai fait des châteaux de sable et je me suis bien marré. Mais il y avait un truc un peu lourd, quoi. C'était lourd, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un pathos ashkénaze quand même
Oui, je sais pas si c'est un pathos ashkénaze, mais des fois, je me suis... toujours demandé, tu vois, ma mère n'avait pas de tante, n'avait pas d'oncle, mon père n'avait pas d'oncles n'avaient pas de tantes, les cousins ça n'existait pas, et eux ils ont eu la chance, ils ont eu leur noyau familial qui a survécu pendant la guerre, mais sans ça, il y a eu beaucoup de gens qui y sont passés, et donc c'était un peu lourdingue, mon père a perdu sa sœur, qui est morte à Auschwitz, bon tout ça c'est... tu rentrais dans la chambre de mon père, il y avait le portrait de sa sœur, mon frère porte le nom de sa sœur. Je veux dire, ça existait quand même.
Mais, est-ce que tu... ouais.
Mais par contre, il n'y avait pas de... Le tout, c'était l'avenir. Toujours voir vers le... Pas le derrière, pas se plaindre, pas être... C'était mal, mais plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'était plutôt construire des fusées que de se plaindre de ce qui s'était passé.
C'est sûr, mais il y a toujours quand même ces... Aujourd'hui, tu es plus certainement plus léger que tu l'étais quand ma sœur et moi, on était enfants.
Oui, mais parce que aussi, que... j'ai dû régler des problèmes, sûrement. Parce que la vie, parce que les vieux sont... Les vieux, ce qu'ils ont, ils ont un peu de vécu, donc ils sont un peu de distance. Ils sont pas... Tout est blanc et tout est noir.
Je dirais que pas du tout que tu étais... J'ai pas de souvenir de toi dépressif.
Oui, j'aimais bien marrer, j'ai toujours bien...
Mais j'ai des souvenirs de toi avec des tristesses, avec des larmes, avec surtout quand on allait voir des dessins animés, tu vois, le dimanche, le Roi Lion, ça te faisait pleurer, c'était... Il y avait... Et puis, je me demande si...
Oui, mais ça, c'est aussi une chose. C'est... Moi, je venais d'un milieu où il n'y a pas de honte à ce que les hommes pleurent. Et il y a des milieux où un homme ne doit pas pleurer. Je sais pas pourquoi un homme... les femmes doivent pleurer, mais pas les hommes. Ben moi, je viens d'un milieu.
Non, mais ça, c'est sûr que toi, tu te retiens pas. Tu pleures. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, un homme qui soit à la fois très, comment dire, un peu brutal et en même temps qui pleure aussi facilement. Dès qu'il y a un truc qui t'émeut, tu pleures très vite.
Si j'en connais
et ton frère est pareil, vous pleurez ensemble.
Oui, mais Gérard est pareil.
Vous pleurez un peu. Mais est-ce que ça, ce truc de pleurer aussi facilement, c'est pas... j'ai l'impression que c'est un truc très Bernstein.
Non, c'est aussi un truc d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de honte à pleurer.
Ah, tu penses que c'est quelque chose d'un peu slave, un peu russe
Oui, on n'a pas honte à crier, on n'a pas honte à pleurer, on n'a pas honte des sentiments.
Ouais.
Il n'y a pas ce côté hidalgo que les Espagnols ont poussé jusqu'au bout, le côté hidalgo qui ne peut pas pleurer, tu vois, qui est quand même une sombre connerie.
Oui, c'est sûr que moi, je pleure beaucoup et j'exprime beaucoup mes sentiments, mais parfois, je rencontre peu en face, c'est assez rare les hommes qui expriment de l'autre côté leurs sentiments aussi. C'est un truc, chez les Français en tout cas, très tabou, encore aujourd'hui. Par contre, il y a un côté Fellman, il y a un côté de notre famille qui est pas autant comme ça, le côté plus riche. Ils ont eu plus de douceur, non ?
Non, je crois pas. Non, ils ont pas plus de douceur. Je crois pas.
Je me considère pas aujourd'hui comme une intellectuelle. J'ai l'impression que là où on diffère tous les deux, c'est que je te ressemble dans le côté staccanoviste et la doxa et ce côté même un peu rigide qui a du mal à se détendre, à profiter. Mais les moments où l'humour, en fait, pour moi, la création, c'est des tout petits trucs très légers, tout petits. C'est des petits poèmes, c'est des petites blagues, c'est des petits... C'est... Tu vois, moi, je suis vraiment... mon écrivain, c'est Kundera, quoi. C'est vraiment quelque chose de sensuel, de
risible, d'un peu cynique. Mais je crois que c'est moi qui te l'ai conseillé de le lire, d'ailleurs. La plaisanterie, je crois.
Oui, c'est pas sûr. Ça se trouve, c'est plutôt maman qui me l'a donné, plutôt. C'est pas sûr que ce soit toi. Parce que tu me donnais des trucs à lire assez chiants, quand même. Tu vois. la biographie de Trotsky, c'est quand même extrêmement chiant. Parfois, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre.
Oui.
C'est les gens qui sont anarchistes. Les gens qui disent qu'ils sont pour le chaos. J'ai du mal à... Tu vois, est-ce que tu es comme moi là-dessus ? J'ai du mal à comprendre...
Oui, je trouve ça absolument... l'anarchie, je trouve, c'est vraiment bête. C'est vraiment le stade zéro de la politique.
Ouais, j'ai du mal avec les gens qui disent qu'ils ne veulent pas voter parce qu'il faut renverser le système et ce n'est pas en votant qu'on va améliorer le système. J'ai du mal à communiquer.
Oui, c'est... C'est bébête.
Est-ce que toi, t'applaudis à 20h?
Non, parce que personne m'entend et il y a un jardin.
Tu serais à Paris, t'applaudirais?
Je suis pas sûr. Je sais que j'ai une amie qui est médecin et je vais téléphoner en lui disant. Et je lui ai envoyé des petits textos parce qu'elle est spécialiste de virologie. Puis un autre copain médecin, j'ai envoyé un petit texto. Mais cette espèce de communion consensuelle, c'est pas tellement mon truc. Mais je trouve ça. Mais si les gens le font, je trouve ça très bien. J'ai rien contre, si tu veux. Ça serait débile d'ailleurs d'être contre ça. Mais je suis pas. Mais je suis pas là-dedans non plus.
Je vais te faire, pour finir, le petit questionnaire de Proust. Tu sais, c'est des petites questions courtes.
Oui, j'ai des références américaines et françaises par rapport à ça.
La qualité que tu préfères chez un homme?
La franchise.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'intelligence.
Le principal trait de ton caractère?
Volontaire.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Honnêteté et franchise.
D'accord. Quel est ton principal défaut?
Je sais pas, j'en ai beaucoup.
Tu peux en citer plusieurs?
Non.
Tu veux citer aucun de tes défauts?
Tu es pas assez persévérant.
C'est-à-dire?
Ben, quand je veux faire quelque chose, je travaille pas assez. Il faudrait que je travaille encore plus pour que ça réussisse.
Quelle est ton occupation préférée?
En ce moment, c'est le jardin. En général, c'est le cinéma. Et sans ça, c'est faire.
Quelle est ton idée du bonheur?
Avoir la liberté d'entreprendre. Il y a, au sens de la possibilité d'entreprendre.
Quel sera ton plus grand malheur?
La perte de mes enfants.
Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être?
Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Parce que je suis moi. Je ne sais pas répondre à ça.
Où aimerais-tu vivre?
Allez, on dit États-Unis? New York? Si j'avais
c'est
le
vrai
choix.
Si tu avais le choix, c'est le lieu où tu rêverais de vivre, ce serait New York?
Le lieu où j'aime vivre, c'est Paris. Mais si je ne pouvais plus vivre à Paris, j'aimerais bien vivre à New York.
Quelle est ta couleur préférée?
Aujourd'hui, le bleu.
Aujourd'hui, avant, c'était le rouge?
Oui.
Ta fleur préférée?
La rose.
Pour Rosa Luxembourg?
Non, pour Rosa Burstein.
Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout?
Ce que je déteste par-dessus tout, c'est la bêtise.
Comment aimerais-tu mourir?
Je m'en tape complètement. On n'aime pas mourir de toute façon. Alors, c'est d'une tautologie de dire « Ah, j'aimerais mourir vite et non pas longuement en souffrant. » Parce que moi, ma question, c'est comment je vais vivre, pas comment je vais mourir.
Quel est ton état d'esprit actuel?
Positif. J'ai toujours été un optimiste.
Quelles sont les fautes ou la faute qui t'inspire le plus d'indulgence?
Beaucoup de fautes.
Tu veux dire les tiennes?
Oui, mais même celles des autres.
Est-ce que tu as une devise favorite?
Non.
Quand j'étais petite, tu m'avais dit guerre à la paix?
Non, guerre à la guerre.
Guerre à la guerre.
Oui. C'est-à-dire que face à la guerre, on brandit pas un panneau en disant non à la guerre, on fait la guerre à la guerre. On fait la guerre à la bêtise. On fait la guerre à l'horreur. Voilà ce que je disais. Mais je ne dis pas guerre au coronavirus. Parce que c'est employer des mots qui ne correspondent pas à l'état des choses.
On a compris que tu détestais Macron.
Non, je ne le déteste pas d'ailleurs. Je ne le déteste pas. Hein. Mais je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas. J'ai voté pour lui. Mais je ne déteste pas Macron, mais je trouve que il faut qu'il arrête de se croire comme un héros national. Quand il n'y a pas d'enterrement aux Invalides, il fait la guerre au corona.
Et est-ce que tu... Donc, comme tu es optimiste, tu penses qu'à la fin du confinement, est-ce que tu penses que ce qu'on traverse, potentiellement, ça peut amener plus de justice sociale, peut-être plus d'attention à l'écologie, ou au contraire, tu as peur que la crise économique qui va suivre la crise sanitaire...
J'espère que ça va améliorer les conditions des gens, les conditions politiques, les conditions écologiques, les conditions sociales. Maintenant, j'ai peur que la période soit très dure et qu'on fasse payer à tout le monde le prix de du contingencement. Et que ça augmente, ça diminue les salaires, augmente les impôts, que ça soit augmente le chômage. J'ai peur que ce soit une période très difficile. J'ai peur que le cinéma soit amputé. Tu vois, les différents gouvernements de Hollande et de Macron, ils ont supprimé le fonds de réserve qu'avait le Centre national du cinéma, qui était 350 millions. Maintenant, il n'y a plus de fonds de réserve, alors que les salles vont souffrir, les producteurs vont souffrir, les techniciens vont souffrir. Donc, ça va être une période difficile. Mais je suis optimiste parce que je pense dans la capacité des hommes à résoudre les problèmes auxquels ils s'affrontent.
Et pour ce qui est de ton actu, est-ce que tu penses que le festival de cinéma que tu organises à l'Île aux Moines aura lieu cet été ou ça risque d'être annulé?
Je sais que Bayreuth est annulé.
Festival d'Édimbourg.
Édimbourg est annulé. On ne sait pas sur Avignon. En ce qui concerne Cannes, ils ont dit la date du 26 juin au 4 juillet, mais on n'en sait rien. C'est-à-dire, je pense qu'il faut attendre pour voir, j'en sais strictement rien. La question, c'est... La vraie question, je pense qu'il y aura un retour à la normale d'ici la date du festival qui est début août, mais la question, est-ce que 700 personnes auront envie d'être ensemble, elles se sentiront rassurées, ou se diront, on va attendre un peu avant d'être tous ensemble. En Chine, ils ont rouvert les salles de cinéma, il y en a 55 000, et puis il y a eu personne qui est venu, et ils ont refermé. Parce que les gens ont peur. Donc, tant qu'il n'y aura pas la fin de l'épidémie et un virus, qu'en sera-t-il des spectacles? Je ne sais pas.
Est-ce que tu as peur qu'il y ait une troisième guerre mondiale? Par exemple, quand on voit que Trump détourne des livraisons de masques qui étaient censées partir de la Chine vers l'Europe, qu'il les détourne vers les États-Unis, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu te dis potentiellement c'est ce genre de comportement qui peuvent déclencher des guerres?
Oui, comme celle des Français qui piquent les masques aux Suédois.
Ah bon? On a piqué des masques aux Suédois?
Ouais, alors... Parce que Trump, les Américains ont piqué des masques aux Français, et les Français, du coup, ont piqué les masques qu'ils devaient rendre aux Suédois. Alors, tu sais, Trump est une horreur, mais le nationalisme, la défense de chacun pour soi est une horreur. Oui, j'ai peur que si la crise économique perdure, si le monde ne se retient pas, on se retrouve comme dans les années 29 à aller vers une guerre mondiale qui seule, afin de masquer, de faire face aux problèmes qui surgissent. Oui, j'ai pas peur, mais je pense que c'est une possibilité.
Bon, bah, merci, papa. Tu vas faire quoi, là? On va finir le podcast. C'était génial pour moi d'avoir toute cette discussion avec toi. Je sais pas comment je peux vraiment la lier avec... je pense que les auditeurs en comprendront plus sur moi et sur certainement ce que je cherche chez les hommes après avoir entendu cette discussion avec mon père. Mais voilà, je pense que ce que moi je cherche chez les hommes, c'est ce que toi tu cherches chez les femmes, c'est l'intelligence.
Oui, moi je cherche à m'amuser.
C'est ça. J'ai l'impression qu'à travers toutes les questions, tous les sujets dont on a parlé de l'amour, puisque l'amour, c'est avoir des passions communes, c'est avoir des discussions, c'est pouvoir échanger. Quand tu parles de curiosité, je pense que c'est ça, c'est partager des curiosités, partager des moments. Bon, c'est vrai que tu as peu utilisé les mots de gentillesse ou bienveillance. C'est vrai que peut-être, moi, le tort que j'ai eu, c'est parfois d'être... d'être attirée par des hommes que j'admire et pas de me poser la question suffisamment de leur gentillesse et peut-être parfois de tomber sur des mecs un peu connardos, quoi. C'est difficile de trouver, de, d'avoir toutes ces qualités réunies. Parfois, t'as des gars qui sont malins, mais qui sont très égoïstes et pas très généreux. Et puis, t'as des gars gentils, mais bon, ce sont pas non plus, c'est dur de, d'allier ces deux qualités, de trouver des gens bienveillants et intelligents.
Oui, mais je pense que c'est important, la, la tendresse, l'attention, la bienveillance, c'est très important.
Mmh. Merci, papa.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion avec mon père ? Assez sérieuse, hein ? En la réécoutant, je me trouve très sage, très respectueuse de la figure du paternas inauguras patriarcas. Je voulais... J'ai essayé de lui témoigner mon amour tout en mettant le doigt sur ce qui, dans son comportement, me frustre parfois. Son esprit de contradiction, sa façon de tout critiquer systématiquement, son côté prof, dictateur, peut mieux faire, rien n'est jamais assez bien, qui me fait sentir petite, impuissante. Vous avez vu, je lis son poème avec tout mon cœur et il me répond « C'est à 98% véridique, je suis touchée, mais il y a des petites imprécisions, je suis à 98% d'accord. » Alors que je viens d'oser lui déclarer toute mon admiration et combien il m'impressionne. Le problème, c'est que je suis un peu devenue comme lui, je crois, peut-être. Peut-être que je suis trop dure envers moi-même et les autres, trop intransigeante, chiante, je suis chiante, je sais pas. Au final, je suis même pas sûre que mon père soit vraiment la cause de mon rapport fucked up au sexe opposé. Je pense que mon père m'a légué sa force, son ambition, la folie de croire en ses rêves. Et après, par contre, faut que je trouve quelqu'un qui apprécie ça chez moi. Or, fréquenter des acteurs et des humoristes, c'est peut-être pas la clé. Les artistes, quand même, bonjour, ils ont besoin de rayonner. Or, moi, j'ai besoin de rayonner, et peut-être que tout ça s'annule. Donc, si un homme est d'accord pour venir rayonner dans mon ombre, il est le bienvenu. Non, je dis ça alors que je me transforme en grosse soumise dès que je tombe amoureuse. Mais rappelle-moi, je t'aime. Donc, je sais pas. J'ai pas trouvé la clé, la solution. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y aura une saison 2 des mecs que je veux ken, forcément. J'ai très envie de continuer ce podcast, de m'améliorer à l'exercice, de mener de mieux en mieux les discussions pour que les invités s'ouvrent, se confient, partagent ce qu'ils ressentent. J'ai envie de continuer à inviter des humoristes, parce que c'est tellement agréable un invité blagueur avec qui ping-ponger. Pourquoi pas aussi des écrivains, des philosophes, pas d'hommes politiques a priori, non. Mais why not des économistes, des chercheurs? D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, écrivez-moi sur Insta et j'irai étudier vos recommandations. Même si un jour je trouve un mec et que je fais des enfants, il y aura toujours des mecs que je veux ken, que je désire, qui me rendent folle, que je peux pas avoir. Et puis, c'est sans fin parler d'amour, d'amitié, du couple, de sexe, de manque de sexe. Je suis un peu émue. J'ai pas les bons mots pour finir cette saison 1. Je voudrais surtout vous remercier d'avoir écouté et je vous dis à dans quelques mois. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Les mecs que je veux ken.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.